redécouvrir Hélène Pedneau. Série de balados sur les écrits et la vie de Hélène Pedneau, regroupant des lectures d'œuvres et des extraits d'entretiens avec des personnes qui l'ont côtoyée. Quatrième série, les chroniques délinquantes de la vie en rose. Épisode numéro 6. Chronique numéro 23. Y a-t-il quelqu'un dans la salle? Ou I am sorry, but there is no service for the number you have dialed. J'ai remarqué que les hommes n'étaient jamais menstrués. À mon avis, ils devraient l'être. Ici, je sens les frissons d'horreur de nos valeureux lecteurs. Non seulement comprendraient-ils enfin la terreur de tomber enceinte à tout bout de champ, mais ça leur donnerait un cycle menstruel ou lunaire explicable. Ils sauraient quand ils sont le plus émotifs, le plus excédés ou le plus calmes. Ils arrêteraient comme ça de faire de nous des êtres péjoratifs parce que nous avons des hauts et des bas, des fluctuations, des subtilités d'humeur qui passent sur le dos de la nature féminine. C'est vrai que, 3 jours avant, c'est la fin du monde. Remake de l'apocalypse à chaque mois. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'on est capable de s'habituer, même si ça revient tous les mois et que ça dure en moyenne 40 ans. C'est toujours sur les mêmes que ça tombe. Surtout qu'un des symptômes principaux que « ça s'en vient », c'est de faire le ménage parce qu'on trouve subitement que la maison est une soue à cochons. Comment ça se fait qu'on ne l'avait pas vu avant? Cette phrase est un signe que les temps sont proches. Alors, si les hommes étaient menstrués, ils verraient peut-être la montagne de vaisselle sale qui n'attend qu'un signe de leur divine main poilue pour disparaître. Et là, je trouve qu'on serait véritablement à égalité, eux et nous. On verrait ensemble que le plancher a besoin d'être lavé parce que les champignons commencent à y proliférer. Ça faisait longtemps qu'on avait vu la crasse, mais on attendait qu'ils la voient, pour une fois. J'en connais qui attendent encore depuis 20 ans. Moi, je suis persuadée que les hommes sont menstrués dans leur tête. Leur menstruation ne leur donne peut-être pas le goût du ménage, mais le goût du pouvoir à tout prix, la majeure partie du temps. J'ai pensé à ça parce qu'on entend beaucoup dire depuis un certain temps « les femmes en politique doivent imposer leurs règles ». Je me suis toujours demandé de quelles règles on parlait. Changeons « règles » pour « menstruation » et on vient d'éclairer la question d'une manière tout à fait différente. Car nous, les femmes et quelques rares hommes, nous savons de quel ordre sont les règles des hommes. On a même eu le temps d'en avoir soupé depuis le temps qu'ils nous les imposent. C'est d'ailleurs pourquoi nous nous ennuyons souvent avec eux, parce qu'ils sont trop prévisibles et qu'on n'en revient pas qu'ils continuent de l'être. À la rigueur, certains pourraient se faire remplacer par des magnétophones et on ne verrait pas la différence. Le problème, c'est que, malgré la sainte autonomie prônée à corps et à cri par les féministes, les femmes, y compris les féministes, ont continué à faire l'éducation de leurs hommes. Et c'est ainsi que le discours des nouveaux hommes est teinté bord à bord de ce que leurs blondes leur ont appris, souvent durement. Je ne crois pas que les hommes aient vraiment commencé à penser par eux-mêmes. Ça paraît dans le dossier, d'ailleurs. Oh, il ne faut pas insulter ses invités. On dirait que les hommes sont sur Terre expressément pour perpétuer les codes et les structures. Alors ils font bien les choses, ils perpétuent. Et l'action, bien passive, de perpétuer est une chose profondément ennuyante. C'est ainsi que bien des femmes, pas du tout intéressées à perpétuer, se retrouvent avec un siège vide en face d'elles, sans interlocuteur valable. C'est donc au nom de l'ennui que j'écris cette chronique. L'ennui chronique, la fixité, la masse d'inertie. Et le phénomène des nouveaux hommes est d'après moi seulement une nouvelle manière de remettre sur le marché le même maudit produit qui n'a pas changé. Une façon de revamper ce qui ne pognait plus sous l'ancien emballage. Là, les psys de tout acabit vont m'accuser de ne pas faire de renforcement positif, que chaque effort est méritoire, qu'il faut le souligner au crayon gras. Désolée, je n'ai pas de crayon gras sous la main. Et le seul message que j'ai à livrer, en notant que le timbre ne coûte pas cher, est celui-ci. On ne naît pas homme, on le devient. Ça me rappelle quelque chose. Personnellement, j'en ai marre d'avoir toujours sous la main les mêmes 4 ou 5 exemples de gars qui ont vraiment du bon sens. D'ailleurs, règle générale, ces hommes s'ennuient eux aussi avec leur père. C'est un peu fort, non? Je devrais nommer Marc, le chum de ma voisine d'en bas, pour qu'il continue de me rendre de menus services essentiels après la lecture de cette chronique. Protégeons nos arrières. Je ne dis pas que tous les hommes sont ennuyants. Je ne dis pas non plus que toutes les femmes sont intéressantes. Mais il faut bien que je m'adresse à un ensemble, et dans l'ensemble, c'est assez ennuyant de faire affaire au corps masculin. Entre Monsieur Net et Madame Blancheville, il y a une différence fondamentale. Madame Blancheville est vraiment une femme de ménage, et Monsieur Net est le représentant d'une compagnie. C'est clair, non ? novembre 1985. Note de 1988. Vous aurez compris que cette chronique m'a expressément été commandée pour fustiger le numéro spécial homme. Ce fut la seule et dernière fois que des hommes écrivirent dans La vie en rose. Tirez vos conclusions.
Et je pense que l'inconscient collectif a fait faut que les femmes se retrouvent toutes seules pour savoir de quoi elles sont capables. Ça me donne envie de pleurer, ma chérie. Ça me donne envie de pleurer. Ça me donne envie de pleurer. Parce que c'est encore vrai. On fait juste semblant depuis 20 ans qu'on a tout réglé ça.
Chronique numéro 24, y a-t-il un miroir dans la salle ? Ou passeport pour crise d'identité incurable ? Avoir un passeport ne signifie pas du tout avoir une identité. Je viens de découvrir ça. Même si depuis longtemps je m'étonne que les douaniers me laissent passer à tout coup, comme s'ils arrivaient vraiment à ne pas douter que la face du passeport est la même que celle derrière leur guichet. Ils ont l'air tellement sûrs d'eux que je finis par les croire. Mais chaque fois, j'ai peur qu'ils ne me reconnaissent pas et qu'ils me démasquent devant tout le monde, comme si j'étais Matahari version 85 en train de transporter les plans de la guerre des étoiles en microfilm dans les branchons de ses lunettes. Je ne sais pas de quoi j'ai l'air, en fait, ce qui crée chez moi un fort syndrome d'imposture. Petite, j'ai sauté par-dessus la face du miroir, par distraction sans doute, ou parce que je suis devenue myope très tôt, ou encore parce que j'ai flâné trop longtemps dans d'autres étapes, comme la phase orale ou la phase du non. Dans laquelle je suis encore, en fait. Vous en lisez les manifestations chaque mois dans cette chronique. Je suis du genre à ne pas reconnaître mon reflet dans une vitrine, à trouver qu'aucune photo de moi ne me ressemble, ce qui est très suspect, et à ne pas pouvoir me sécher les cheveux devant un miroir parce que je fais tous les gestes à l'envers. Alors, pour survivre dans cette société où il faut avoir l'air d'un jeune cadre dynamique pour avancer, on développe des petites techniques avec le temps. Parce que l'important, c'est ce qu'on a l'air, pas ce qu'on est. Et, à la limite, l'image qu'on projette est totalement indépendante de soi, autonome, indépendante de notre volonté, comme ils disent quand ils n'arrivent plus à trouver l'image à la télévision. Si on ne veut pas payer un psy pour trouver son identité, on est bien obligé de se fier aux autres pour la trouver. Erreur fatale. En fait, si vous pouvez l'éviter, ne faites jamais ça. C'est l'enfer. Les images qu'on vous renvoie sont tellement contradictoires qu'on se retrouve avec une image de soi qui ressemble à un portrait de Picasso, le pied dans le front et le nombril sur la joue. Après ce traitement, on ne peut pas se trouver belle sur une photo. En plus, la majorité des gens pratiquent la déduction courte à votre sujet, du grand art. Ils sautent aux conclusions les plus évidentes. Si vous avez l'air heureuse, c'est que vous êtes en amour. Si vous êtes sur votre 36, c'est que vous devez avoir un rendez-vous galant. Si vous parlez fort, c'est parce que vous êtes choquée, etc. Un jour, en l'espace de quelques minutes, on m'a perçue comme la personne la plus nerveuse et la plus calme au monde. Ces images contradictoires sont une source de stress épouvantable. Je ne me ronge pas les ongles pour rien. Suis-je calme ou nerveuse ? Suis-je un iceberg ou une personne chaleureuse ? Suis-je un monstre de calcul ou un être spontané ? Suis-je un bloc de granit ou un chiffon ? Suis-je un dragon ou une souris ? Suis-je un monument de confiance en soi ou un spectre d'incertitude ambulant ? Si je suis tout ça en même temps, une chatte n'y reconnaîtrait pas ses petits. Ce n'est pas un passeport qui va régler le problème. Peut-être que je connais trop de monde. Ou que je suis incapable d'assumer les multiples facettes de ma riche personnalité. Mais après tout, sommes-nous si personnels ? Avons-nous tant que ça une identité propre, ou ne sommes-nous que des figures de style, des casse-têtes fabriquées par les événements et les gens qui nous traversent et nous laissent des morceaux d'eux-mêmes au passage, souvent en oubliant de nous indiquer l'endroit où les mettre ? Certains, certaines, vous jouent même le tour pendable de vous offrir des morceaux qui ne vont pas du tout dans votre casse-tête. On peut aller jusqu'à mourir à force de ne pas trouver la place d'un morceau, à moins de découvrir à temps qu'il allait dans un autre casse-tête. J'ai des frissons d'horreur quand je pense que si ma mère avait acheté de la soupe aux tomates Campbell au lieu de la Elmer quand j'étais petite, c'est la Campbell que j'aimerais maintenant. Burke, je l'ai échappé belle. Les goûts tiennent à si peu de choses. On se demande vraiment pourquoi on en fait un tel plat. Alors un passeport devrait suffire pour l'identité ? Non. Décembre-janvier 1986. chronique numéro 25, y a-t-il une catastrophe dans la salle ? Ou, mieux vaut tomber en amour qu'en désuétude. Montréal, dans la nuit du 1er au 2 décembre 1985, 2 heures. Ma chère Evelyne, je viens de partir de chez toi, mais tu sais comment on est, on a toujours quelque chose à se dire, à rajouter. Eh bien, je t'annonce, à toi qui es resté bien au chaud, que c'est le déluge sur Montréal cette nuit. Tempête de pluie ici et probablement tempête de neige à Jonquière. Je n'ose qualifier le genre de tempête qui s'abattra sur le Québec tout entier demain soir vers 8h30. Ne soyons pas scatologiques. Comme tu le dis si bien, restons élégantes en toute situation. Imagine le symbole. Ce soir, c'est le déluge. Demain, Noé arrivera, faisant du surfing sur sa mer rouge et on sera submergé. Les spécialistes n'avaient pas prévu le tremblement de terre de Mexico, ni l'éruption du volcan en Colombie, mais ce déluge-là a été dûment annoncé, préparé, proclamé. Tous les journaux, à court d'idées autant que les politiciens, lui ont déroulé le tapis rouge. La machine à remonter le temps vient d'être inventée au Québec en 1985. Qu'est-ce qu'on est géniaux quand même, les Québécois ! On la cherchait depuis des siècles dans les imaginaires de tous les pays du monde, et c'est nous qui l'inaugurerons demain soir à travers la virilité sublime de la voix de Bernard de Rome. Et la belle époque recommencera. On va ressortir nos pancartes du placard. J'espère que tu ne les avais pas jetées, la température au Québec est si changeante. On va redescendre dans la rue, se geler les fesses, et on va passer une partie de l'année en extinction de voix. Rewind sur l'avortement, rewind sur la langue. On ne peut même pas exiger davantage, comme aurait pu le faire le PQ, ce nouveau parti fédéraliste qu'on a déjà connu et aimé du temps de sa jeunesse folle. Connerie pour connerie, on n'aurait quand même pas été obligé de repartir à zéro avec lui. Malgré tout. Imagine s'ils emprisonnent à nouveau les chefs syndicaux aux prochaines négociations. Cette fois-ci, ils vont être pognés avec Monique Simard à Tanguay. Ils ne savent pas ce qui les attend. Elle va leur faire regretter d'avoir tant tenu à prendre le pouvoir. Et ce pauvre Morgenthaler. Alors qu'il serait temps de lui ériger une statue pour service rendu aux femmes du Québec, il va se retrouver sans statue du tout. On se croirait en Ontario. Ici, je sens un petit frisson d'horreur. On en sera quitte aussi pour sortir des boulamites le fameux « Speak White » de Michel Lalonde. Imagine que j'avais lu ce poème sur les ondes de Radio-Canada à Chicoutimi en réponse au Bill 63 de triste mémoire. On ne peut pas dire que j'étais une journaliste très objective. Comme tu peux le constater, je n'ai pas tellement changé, sauf que j'étais peut-être plus impétueuse à 20 ans que maintenant. Oui, ça se peut. Imagine ce que c'était. Infernal. Prépare-toi, ma vieille. Il va falloir retrouver nos 20 ans d'urgence pour ne pas avoir à suivre un cours intensif chez Berlitz demain matin. C'est nous qui les proclamerons, les mesures de guerre, cette fois-ci. À part ça, Zonzon m'a prédit que l'amour allait me tomber dessus incessamment, sinon bientôt, comme dirait Clémence. J'attends. Mon tarot était excellent à tout point de vue. Je n'ai pas osé lui demander de tirer le tarot du Québec puisque son avenir avait déjà été prédit par l'ensemble de la presse québécoise à travers ces nouveaux tarots que sont les sondages. Mais je vais te dire une chose, Evelyne. Pour tomber en amour, moi, je dois me sentir parente avec l'autre quelque part. Alors il est absolument impossible pour moi de tomber en amour avec le nouveau gouvernement. C'est ça le problème. On n'est pas parents et on ne le sera jamais. On n'est pas de la même lignée. J'ai toujours la fâcheuse impression qu'il pourrait vendre le Québec pour un plat de bine. Et même si l'autre gouvernement me faisait suer à mains égards, je pouvais toujours lui gueuler après, je me sentais malgré tout du même bord. J'ai procédé de la même façon avec ma mère jadis. C'est comme ça, les familles. Et tu sais, entre Louise Arel et Monelle Saint-Don, dans le comté de Maisonneuve, mon choix est vite fait. Et toi ? Il est 3h15 déjà. Le déluge continue. Eh bien, je l'aurais connu de mon vivant. Vive l'histoire. Je t'embrasse. Au moins, toi, tu sens bon. C'est encourageant. Hélène, février 1986. Postscriptum. J'en ai entendu une bonne aujourd'hui. Il paraît que sous le nouveau gouvernement, l'autre télévision deviendra l'ex-télévision. Comique, non ? Je vais encore perdre ma job. Je veux quand même donner un bon point à tous les Québécois qui auront élu ce gouvernement. Ils et elles viennent en même temps de redonner vie à la gauche québécoise. Ce qui n'est pas rien en ces temps ambidextres. Pardon, ambigu. Note de 1988. Je vous rappelle que le 2 décembre était jour d'élection au Québec cette année-là. Chronique numéro 26, y a-t-il un lifting dans la salle ? Ou, les filles, sauvons la face et les meubles tant qu'à y être. Chère maman, au secours. Je ne comprends pas les femmes, pas plus toi, moi, que les autres. Il était bien temps que je me rende compte. À 33 ans, je me demande aujourd'hui de quelle sorte de bois tu étais faite. Toi, ta spécialité était de sauver la face. Ce fut ta plus grande réussite, à part moi, bien sûr. Comment tu as pu te payer un manteau de fourrure alors que papa gagnait 22 $ par semaine chez Coca-Cola me paraît encore, avec mes yeux d'adulte, un tour de prestidigitation. Il est vrai que c'était un bon investissement. Tu l'as porté pendant 25 ans. Faut croire que tu étais une sorte de génie de la finance dans ton genre, puisque personne ne s'est jamais vraiment rendu compte, nous non plus, qu'il y avait un sérieux problème d'argent dans notre famille. Si tu avais connu l'existence des cours de la bourse, l'indice Dow Jones n'aurait eu qu'à bien se tenir. On était toujours propres, le dedans des oreilles compris, bien habillés, même gâtés. On avait toujours notre 10 cents pour acheter notre lait au chocolat à la récréation. Et chaque dimanche, en grande pompe, on s'entassait dans un taxi pour se rendre à la messe. Prendre un taxi, c'est quand même montrer qu'on est un peu au-dessus de ses affaires. Malgré tout, j'ai eu un doute sur notre situation financière quand tu m'as refusé des cours de piano à 8 $ par mois et la maison de poupée avec tout le mobilier que Diane Bolduc semblait avoir eu, elle, sans aucune discussion. Je n'ai rien dit. J'ai sauvé la face, comme toi. Et je continue de le faire parce que je déteste, comme toi, le misérabilisme. Et c'est à cause de cet héritage de fierté que tu m'as légué que je me pose aujourd'hui de sérieuses questions sur les femmes. Veux-tu me dire, alors que nous sommes plus de 52% de la population et qu'on prévoit que nous serons plus de 55% en l'an 2000 qui approche, pourquoi les femmes continuent d'avoir des attitudes minoritaires? C'est honteux. Nous sommes un défi aux mathématiques. La force du nombre n'a aucune incidence sur notre manière de demander. Alors qu'on devrait exiger, on continue de demander patiemment sans avoir de réponse. On pleure la nuit plutôt que de parler fort le jour. On n'arrête pas de faire des histoires de cœur avec les moindres histoires minables. On met du sentiment dans tout ce qu'on vit. Comment veux-tu discuter avec un garagiste ou un banquier avec cette mentalité? Moi, ça commence à me poser des problèmes de conscience. De deux choses l'une. Ou on est niaiseuse génétiquement, ou on est stratégique et je ne m'en suis pas encore rendu compte. Mais j'ai toujours trouvé que « reculer pour mieux sauter » était un proverbe vicieux. Un virage à 180 degrés, ça s'appelle un retour en arrière, si je ne m'abuse. Et je m'affole en ce moment parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qu'on a appris, maudit, si encore aujourd'hui on préfère comprendre un four micro-ondes ou un robot culinaire plutôt qu'une photocopieuse ou un ordinateur? Si on accumule encore nos précieux manuscrits trop sensibles dans des caisses plutôt que de les transformer en pièces de théâtre ou en romans visibles? Si on a encore peur de prendre des risques et de se tromper sur la place publique? Pendant ce temps, on a l'impression que les femmes n'inventent rien. Après la flambée des années 75 à 80, c'est un peu dur à comprendre. Est-ce là tout le feu qu'on contenait? J'en doute. Mais où est-il passé? Dans le même gouffre que toutes les modes? Aurait-on cru par hasard ceux et celles qui ont claironné que le féminisme était passé de mode? J'ai l'impression qu'on est un peu gaga en ce moment. À tel point que ça ne m'étonnerait pas du tout d'entendre des nouveaux mots d'ordre du genre « Soyons consentantes à 100% et nous ferons ainsi disparaître complètement le viol de la planète ». Ou encore, les filles continuons d'être des fleurs à la merci du premier sécateur venu. Ou, varions nos virages pour déjouer l'adversaire, tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt au milieu, et finissons dans le fond de la garde-robe. Tu vois, maman, comme j'ai le sens de la phrase publicitaire. Je perds de l'argent par ma faute. Plus, perdons la mémoire, ça vaut mieux que de se souvenir. Et refaisons les mêmes erreurs. Moi, je dirais plutôt, soyons un défi à la science, vivons sans cœur et sans reproche. C'est ma nouvelle devise. Et si tu es d'accord, maman, je vais te voir bientôt pour préparer un cours de sauvage de face qu'on pourrait offrir au Y des femmes. Ça devrait pogner énormément. Bon, je m'arrête ici. J'ai encore des milliers de choses à te dire pour me défouler, mais ça ne servira à rien. Les filles de La Vie en Rose vont me couper, comme d'habitude. Je t'embrasse. Ta fille qui t'aime, même si elle ne te comprendra jamais. Hélène. Mars 1986.
Elle venait d'un milieu ouvrier pareil. Elle avait cette quelque chose-là qui pognait vite l'air du temps, puis qui prenait vite. Puis elle s'est intéressée très vite, jeune, à tout ce qui se passait. C'était du monde de Jonquière. Hein? Puis Jonquière, c'est un milieu. Moi, quand je faisais de la tournée, il y a des places qu'on sortait des salles, on disait sont-tu formidables? On n'a pas à les animer, ils sont allumés. Tu sais, c'était comme des places où si tu voulais avoir quelque chose, tu étais obligé de le faire. La Gaspésie me faisait la même chose. Mais il y a des coins comme ça, trésor au Québec, qui fait que
Si tu fais rien, il se passe rien, fait que let's go.
Chronique numéro 27. Y a-t-il un mensonge dans la salle ? Ou comment faire en sorte que le privé ne devienne jamais politique ? Ma voisine d'en bas pense que je mène une double vie. Ça la chicote à un point tel qu'elle a commencé à se ronger les ongles. Je ne la contredis pas, je ne l'encourage pas non plus. Je fais le sphinx. Je passe et repasse à toute vitesse devant sa porte, avec ou sans talons hauts. Comme ça, elle peut penser que j'ai différentes sortes de rendez-vous. Je sais qu'elle m'entend. De toute façon, elle n'a pas le choix. Je n'ai pas le pas léger d'une nymphe évanescente. J'ai toujours eu le pas assuré d'une fille qui avait l'air de savoir où elle s'en allait, même quand je me sentais moins utile qu'un pois chiche. Je n'ai jamais su errer comme du monde. C'est une tare parce que si je savais errer, je trouverais le moyen d'avoir l'air fragile parfois, et quelqu'un aurait peut-être envie de me protéger, de me nourrir et ou de me bercer. Ce qui n'est pas près de m'arriver parce que j'ai l'air indestructible. Je suis donc condamnée à l'autonomie la plus ennuyante, même si je ne sais pas faire cuire un steak haché. L'autonomie obligée exige qu'on se contente souvent de peu, y compris d'un sandwich à la mayonnaise Miracle Whip. Je vous le recommande avec un excellent policier, on arrive à ne plus pouvoir s'en passer. Autrement, c'est le restaurant. C'est simple, ma voisine d'en bas ne connaît de mon intimité que le macaroni avec la soupe aux tomates Elmer froide que je mets par-dessus le macaroni chaud, ce qui finit par devenir un plat tiède tout à fait acceptable. Pourquoi salir deux casseroles ? Quand elle a connu ce côté intime de moi, elle a ri pendant 2 jours. Alors je ne l'ai pas mise au courant des sandwichs à la mayonnaise et du reste que je ne raconte pas parce qu'il pourrait y avoir des cœurs fragiles. Je ne voudrais pas faire perdre des lecteurs et des lectrices à la vie en rose. Donc elle pense que je mène une double vie. Je ne lui dirai jamais qu'elle se trompe complètement. En fait, j'en mène 3 ou 4, je ne les compte plus depuis longtemps. Et je peux jurer que ce sont toutes des histoires d'amour. Et là, je ne parle pas de mes 3-4 jobs à temps plein. En fait, je n'ai pas le temps de vivre tellement je suis autonome et occupée. Je n'ai même pas le temps de dire à la personne dont je suis amoureuse que j'en suis amoureuse. Ça viendra. Chaque chose en son temps. Dans quelques années, je m'organiserai bien pour prendre quelques jours de vacances. Et n'allons pas croire que je me tais par timidité. Moi, timide, voyons. Je manque de temps. Il faut bien que je sorte mes poubelles, que je lave mon linge en plus de tout le reste. Et puis, je suis très jalouse de ma vie privée. Tout le monde se pose des questions à mon sujet et c'est très bien comme ça. Le mystère est toujours attirant. Dans ce monde d'informations à outrance, on peut devenir une nouvelle, un potin ou une dépêche de la presse canadienne dans le temps de le dire. Et ma voisine d'en bas adore les potins, entre autres choses qu'elle adore. C'est une fille très enthousiaste de nature. Je suis tellement jalouse de ma vie privée que je ne m'en parle même pas à moi-même, de peur qu'elle me paraisse dans le visage à découvert. À côté de ça, le secret de Fatima est un secret de polichinelle. Je suis une tombe. Ce qui n'est guère réjouissant, je l'avoue, mais ce côté de moi est très apprécié de plusieurs de mes amies porteuses de secrets qu'elles croient inavouables, sauf à moi. Il ne faudrait surtout pas que je publie mes mémoires d'outre-tombe, même si la tentation est grande à force de demeurer sur la rue de Chateaubriand. Donc, je n'ai jamais enfourché la moto féministe. Le privé est politique. Cette phrase m'a toujours donné des frissons d'horreur, étant donné mon caractère extrêmement privé. Mais je vais lui dire que je suis amoureuse, qu'est-ce que vous croyez ? Que j'ai peur ? Pas du tout. J'ai beaucoup de sang-froid. Je n'ai jamais rougi de ma vie et j'ai l'air toujours au-dessus de mes affaires. Vaudrait peut-être mieux que je sois dedans ? Je termine mon contrat à Radio-Québec à la fin mai, alors en juin ou en juillet, avant de reprendre le travail en août, j'aurai bien 5 minutes pour lui dire. Ça ne prendra pas beaucoup de temps à dire ces choses-là quand on est direct comme je le suis, franche et sûre de soi. Et comme ça, j'aurai enfin vaincu mon autonomie maladive sans psychothérapeute. À suivre. Avril 1986. Vous venez d'entendre des chroniques délinquantes de La vie en rose de Hélène Pedneau, ainsi que des éléments d'entretien avec Paul Pelletier et Marie-Claire Séguin. Découvrir Hélène Pedneau, une série de balados proposée par Marion Cousineau. Lecture, entretien et montage sonore, Marion Cousineau. Thème musical, Jean-François Groux.